Merci Major pour toutes ces informations liées à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Et sans tarder, nous entrons dans la deuxième phase de cette conférence de presse, à savoir la séance des questions-réponses. Vous connaissez la règle, veuillez éteindre vos téléphones ou mettez-les sous silencieux. À tous ceux qui désirent prendre la parole, identifiez-vous ainsi que l'organe que vous représentez. Nous commençons par Goma, par la droite. Oui, donnez le micro s'il vous plaît ici. Le micro est ouvert, allez.
C'est Victor Bigati pour le compte du journal de Hebdo de l'Est. Messieurs, je pose toujours ma question à Félix Basse. Avez-vous déjà été un jour à Panzi, chez Mukwege ou peut-être ici à Île Africa? Que pensez-vous des violences sexuelles que les FDLR continuent à faire à la femme congolaise?
Oui, merci pour votre question. Certes, je n'ai jamais été à Panzi, mais je connais très bien Panzi, mais je connais très bien l'hôpital Île Africa ici à Goma. Concernant maintenant les exactions que les FDLR continuent de perpétrer en République démocratique du Congo, particulièrement contre les femmes et les enfants, je peux tout simplement vous dire que les forces démocratiques de libération du Rwanda constituent un groupe armé criminel présent en République démocratique du Congo depuis une vingtaine d'années et qui fait subir des exactions inouïes aux populations civiles, particulièrement les femmes. Et c'est dans ce cadre-là que les opérations ont été initiées par les forces armées de la République démocratique du Congo pour neutraliser ce groupe armé, conformément aussi à la résolution 2211 du Conseil de sécurité qui indique clairement à la force de la MONUSCO de procéder à la neutralisation de ce groupe armé, car comme vous le savez, les FDLR continuent à commettre des exactions et nous pensons que très bientôt, si tous les efforts sont conjugués, si aussi nos moyens sont mutualisés, nous pensons que la neutralisation des FDLR demeure impérieuse pour nous et pour les FRDC qui s'échinent tous les jours au nord comme au sud Kivu à mettre un terme aux exactions commises par ces populations. Une deuxième question ici à gauche.
Oui, je m'appelle Gaïs Coelé, je travaille pour la radio allemande de GBD. Ma question c'est par rapport à l'Ituri, parce qu'on parle chaque fois des exactions, Je me souviens qu'il y a eu un moment une opération de marquage d'armes. Je ne sais d'armes légères en Ituri pour qu'on puisse savoir cette arme que telle a utilisée est venue de telle place. Je ne sais pas si vous avez des informations par rapport à la suite de ces marquages.
Non, je pense tout simplement que en Ituri, la priorité aujourd'hui pour la MONUSCO comme pour les FRDC demeure la neutralisation des groupes armés. Évidemment, après avoir neutralisé ces gens-là, nous pouvons aussi recueillir beaucoup d'armes. Mais cette opération avait été initiée, comme vous l'avez tantôt indiqué, il y a peu de temps, et jusqu'à présent, elle se poursuit. Nous n'avons pas d'informations beaucoup plus fiables sur le déroulement de ce processus, mais nous savons que le processus est toujours en cours. Une dernière question ici à Goma avant d'aller à Kinshasa. Oui, là-bas, au fond.
Oui, oui, c'est Charlie Lafayette qui raconte la voix de l'Amérique. On aimerait savoir quelle aujourd'hui est la position de la MONUSCO par rapport à l'alerte que les membres de la Lucha ont fait hier, mais aussi par rapport à la disparition de notre membre de la société civile de Mouima depuis très longtemps maintenant. Comment se poursuivre les marqués?
Oui, nous avons aussi appris la disparition de Bienvenu Matumo depuis samedi suite à une réunion à laquelle il avait pris part à Kinshasa. Et le bureau conjoint des Nations Unies demeure très, très préoccupé par cette nouvelle disparition de Bienvenu Matumo. Et ils sont à pied d'œuvre pour tenter de savoir où est passé Bienvenu. Je veux tout simplement rappeler au passage que dans tout état de droit, lorsqu'un citoyen disparaît, il appartient, il incombe aux autorités de ce pays de mener des investigations afin de le retrouver. Mais sachez que le bureau conjoint des Nations Unies est en train de mener des investigations, de prendre des contacts pour savoir exactement ce qui est arrivé à cet autre membre de la société civile, Lucha. Direction Kinshasa pour deux questions, s'il vous plaît. Kinshasa.
Ok, le microphone, on commence par la dame à ma droite ici.
Le journal Africa News et le journal des Nations Online. Ma question s'adresse à Florence Marchal. vous n'avez pas fait allusion au communiqué du PAM qui a été publié hier sur le détournement de les allégations sur le détournement de vol de camions et de vivre dans la localité des Kirumba dans le Nord Kivu. Alors, moi, je voudrais savoir ici, il a été dit dans le communiqué que le PAM dément ces allégations-là qui ont été portées contre lui par rapport, c'est-à-dire que ces allégations ont été faites par la société, le représentant, le président de la société civile, de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Alors, ces informations-là qui disent que le PAM est auteur du vol des camions et de vivres frais ont été relayées par la radio Okapi. Comment est-ce qu'on peut nous expliquer que la radio Okapi puisse relayer ce genre d'informations et que ça ne puisse pas être vrai?
Alors, en effet, le PAM a diffusé hier un communiqué que visiblement vous avez tous reçu, où il est indiqué qu'il réfute toutes les allégations de vol de vivres après avoir mené une enquête. Je crois me souvenir que la première fois où on a entendu parler de ces allégations, c'était il y a une semaine. Et donc, le PAM s'est laissé le temps de mener une enquête en interne et auprès des partenaires afin de pouvoir établir les faits, ce qui s'était réellement passé. Et donc, hier, ils ont issu un communiqué expliquant qu'ils n'avaient absolument rien à voir dans l'affaire. Et effectivement, ils étaient un petit peu déçus de voir que la société civile, le représentant de la société civile à Lubero, avait diffusé cette information. Quant au relais sur Radio Okapi, Radio Okapi, j'imagine, les journalistes ont aussi fait leur travail de leur côté. Donc peut-être qu'il faudra se rapprocher d'eux pour leur demander de croiser les sources. Voilà, mais je ne peux pas commenter le travail de vos confrères.
Ok, une question. Il y a un micro là. Oui. Où est le micro? Ok, allez-y. Oui, allez-y.
Alain Mouzi pour la radio SCC. Un important séisme a secoué l'est de la RDC de magnitude 5,6. Est-ce qu'on peut savoir le bilan, puisqu'il y a des controverses autour du bilan et la MONUSCO qui a dépêché ses hélicoptères pour s'enquérir de la situation? Et quelle est la situation de l'activité sismique actuellement?
La question porte sur le séisme. Le porte-parole, c'est à vous.
Oui, merci. Nous savons que depuis le 7 août, effectivement, un séisme a été observé aussi bien à Goma qu'à Bukavu. Et vous l'avez très bien dit, les chiffres sont assez fluctuants ou assez contradictoires. Toujours est-il qu'au niveau de la MONUSCO, nous savons qu'il y a eu deux morts, un enfant et peut-être un agent de la police. Et au niveau de Goma, des mesures de coordination ont été entreprises avec les autorités provinciales dans le cadre du comité de sécurité pour prendre en compte cette nouvelle menace. Comme vous le savez, les catastrophes naturelles sont imprévisibles. Mais nous mettrons tout en place, tout en ordre, en étroite coordination avec les autorités provinciales pour établir un plan d'évacuation au cas où un tel sinistre se passerait encore. Toujours est-il que nous restons très vigilants et avons mis à la disposition des volcanologues un hélicoptère pour leur permettre de conduire une évaluation assez exhaustive de la situation. Nous attendons les conclusions de leurs enquêtes pour pouvoir aviser. Oui, nous revenons ici à Goma pour une question là sur la gauche. Oui, à
vous. Oui, dernièrement, j'ai fait tout le camp de géopolitique. Il existe depuis quelques jours à Moscou un programme de sondage, un projet de sondage intitulé Pauline Project, et dont l'objectif serait celui pour la Moscou de faire l'évaluation du niveau.
Parlez un peu plus fort.
Je disais, il existe depuis quelques jours à Moscou un projet de sondage intitulé Pauline Project Son objectif est pour la mission onusienne de procéder à l'évaluation du niveau de pacification des villes et villages des trois provinces de l'Est, Nord Kivu, Sud Kivu et province orientale. La question est de savoir quel est le niveau actuel de la dite évaluation. Je parle.
Oui, vous avez parfaitement raison. Ce projet se poursuit et nous n'en sommes pas encore arrivés à terme de notre évaluation. Et une fois que nous aurons toutes les conclusions de cette activité-là, nous les mettrons à votre disposition. Une deuxième question ici.
Oui, c'est Norbert Mundula pour la radio-télévision Graben. À Calembe vers Piga, la société civile locale enregistre un mouvement de déplacement de la population très important. Elle plaide par ailleurs à une action humanitaire, mais aussi un déploiement des forces conjointes de MONUSCO et FARDC pour faire face aux FDLR. Qu'est-ce que vous en dites ?
Major, la question est à vous.
Merci, monsieur le journaliste. Votre préoccupation est tout à fait juste. Actuellement, la force est en mission dans la région pour faire une évaluation. Et d'ici là, des résolutions vont être prises et des actions vigoureuses vont être prises également pour pouvoir régler ce genre de problèmes.
Oui, juste pour compléter un peu le major Gonsalves, effectivement, depuis un certain temps, nous avons observé des combats récurrents entre les FRDC et les Forces démocratiques de libération du Rwanda dans la région de Kalembe, comme vous l'avez indiqué. Et effectivement, ces combats ont aussi suscité des déplacements de populations locales vers des localités beaucoup plus sûres. Aujourd'hui, la force de la MONUSCO, en étroite collaboration avec les FRDC, ont mis en place un dispositif qui permet aux FRDC de poursuivre la traque des FDLR et à force de la MONUSCO de mettre un dispositif sécuritaire autour de la région de Kalembe pour prendre en compte cette menace. Évidemment, ces déplacements de population civile interpellent aussi les humanitaires. Je ne sais pas si Florence Marchal, à partir de Kinshasa, peut rajouter quelque chose à ce que je viens de dire du côté humanitaire. Florence, c'est à vous.
Merci Félix. Non, j'ai bien peur que de n'avoir rien à ajouter. Je pense que vos propos ont été complets.
Oui. Merci beaucoup. Nous prenons dernière question ici à Kinshasa, à vous, à Goma, avant d'aller à Kinshasa.
Merci, monsieur Félix Bax. Je m'appelle Albert Toulinabo, disons le peuple souverain. Monsieur Félix, pouvez-vous affirmer ou infirmer aujourd'hui que le territoire de Walikai est considéré encore comme île de stabilité, au moment où ce territoire de Walikai reste et demeure les théâtres des affrontements entre les différents groupes armés, malgré tous les efforts déployés par la MONUSCO et les FARDC pour stabiliser cet instant.
Je confirme que le territoire de Walikale demeure toujours un îlot de stabilisation, malgré des combats que nous observons depuis un certain temps entre, comme vous savez, Tcheka Ndouma Défense du Congo et son adjoint Gideon, particulièrement dans la région de Toto. Et nous avons aussi observé qu'il y a eu une nouvelle dynamique justement dans ces combats-là, parce qu'il y a de nouvelles coalitions qui ont été nouées, notamment entre Gideon et les Maïmaï Kifouafoua, mais aussi Tcheka qui s'est aussi lié avec les Rahia Mutomboki. Évidemment, cette situation est très préoccupante parce qu'au-delà de ces combats-là que nous observons, il y a aussi des maisons qui sont brûlées, il y a aussi des déplacements de population, et à ce titre, la force de la MONUSCO a pris toute la mesure de cette menace-là et a déployé une base opérationnelle temporaire dans cette région-là qui a permis aux populations de revenir progressivement vers les localités qu'elles avaient abandonnées. Merci, nous allons à Kinshasa pour deux questions, s'il vous plaît. Kinshasa.
Ok, donnez, là, voilà, au fond là-bas. Au fond, oui.
Anthony Chamba, pour le compte de Raga Télévision. Une question à Florence Marchal. Vous avez parlé de l'enregistrement biométrique de réfugiés rwandais, suspendus au nord et au sud Kivu, et qui a commencé ici à Kinshasa. On venait de parler des FDLR qui sont en train de commettre des exactions, des viols des femmes congolaises. Mais l'idéal serait que et les FDLR et les réfugiés rwandais puissent retourner chez eux au Rwanda. Et vous êtes sans oublier que le Parlement rwandais vient d'ouvrir la voie pour un troisième mandat au président Kagame. Ce sont des comportements qui énervent. Question. Les Nations Unies ont poussé autour d'une même table de négociations les belligérants, en tout cas les belligérants congolais, Santiti, ils se sont entendus. Pourquoi est-ce que les Nations Unies ne parviennent pas à faire de même au Rwanda pour que le Rwandais s'entende aussi et que de comportements des FDLR puissent s'arrêter? Parce que ce sont des comportements, comme je l'ai dit, qui énervent. Merci.
Alors, comme votre question va au-delà de la simple actualité indiquant que les opérations d'enregistrement biométrique des réfugiés avaient commencé à Kinshasa, je pense que le porte-parole de la mission pourra être plus à même à vous répondre. Félix, vous pouvez donner quelques éléments de réponse?
Oui, je voudrais bien, mais on ne vous a pas bien entendu ici pour des problèmes techniques. S'il veut bien reformuler sa question.
Est-ce que vous pouvez reformuler la question vraiment d'une manière succincte et claire?
Je disais ceci, les FDLR sont en train de commettre des exactions, vous l'avez souligné, et qu'ici à Kinshasa, on a commencé avec l'opération de l'enregistrement biométrique des réfugiés rwandais. L'idéal serait que et les réfugiés et les FDLR puissent retourner vivre chez eux au Rwanda. Or, il s'avère que le Parlement rwandais venait d'ouvrir la voie pour un troisième mandat au président rwandais Paul Kagame. Ce sont des comportements qui énervent. Comme les Nations Unies avaient mis autour d'une même table les belligérants congolais à Santiti, est-ce que les Nations Unies ne peuvent-elles pas mettre également autour d'une même table les belligérants rwandais afin qu'ils puissent s'entendre et que des comportements qui énervent puissent être mis de côté? Mais ils n'entendent toujours pas, apparemment.
Est-ce que vous m'entendez? Je vais essayer de résumer la question. Vous avez compris?
Non, on ne vous entend pas très bien ici pour des problèmes techniques. Résumez, s'il vous plaît.
Oui, la question est simple. Il y a le début de l'enregistrement biométrique ici des FDLR. Et au Rwanda, le Parlement aurait ouvert la voie à un troisième mandat au président. Est-ce que les Nations Unies peuvent, d'une manière collégiale, amener les belligérants à s'entendre sur une plateforme de négociation? C'est grosso modo la question.
Je me rends compte que il y a deux aspects dans cette question. Il y a un aspect qui a trait d'abord à l'enregistrement des FDLR, et la deuxième partie de la question a trait à la décision prise par le Parlement rwandais d'ouvrir la voie à un troisième mandat pour le président Kagame. Maintenant, au niveau des Nations Unies, comme nous l'avons toujours dit, au niveau du Rwanda, ce qui se passe au Rwanda, je ne me permettrai pas de le commenter tout de suite, mais ce qu'il faudra retenir, c'est qu'au niveau des Nations Unies, les efforts ont toujours été consentis pour amener les différentes parties à discuter de tous les problèmes qui se posent, notamment le rapatriement des FDLR. Mais vous savez qu'au niveau des Nations Unies, notamment au niveau de la MONUSCO, au niveau de sa section des D3R, depuis fort longtemps, des efforts sont menés pour renvoyer les FDLR dans leur pays d'origine, à savoir le Rwanda, et nous avons jusqu'à présent à peu près renvoyé à peu près 12 000 FDLR au Rwanda pour leur intégration future. Maintenant, comme je l'ai dit, les efforts se poursuivent sur le terrain pour essayer d'amener les différentes parties à une solution pacifique. Mais je l'ai toujours dit aussi, les FDLR constituent un groupe criminel qu'il faut neutraliser. Les neutraliser afin de le pousser à une reddition afin qu'ils puissent être rapatriés chez eux. Donc, c'est ce que je peux dire pour cette question. Maintenant, concernant la décision du Parlement rwandais, je ne me permettrai pas de le commenter. Une deuxième question ici, s'il vous plaît.
Qui fut Victor Abdallah de Bateau? À Kachébéré, la population vient d'adresser une lettre au gouvernement qui s'oppose au retrait des cartes bleues dans la région. Quelle garantie vous pouvez donner à cette population? Et, mais aussi, je reviens sur Toto, où la situation est toujours volatile et il y a la base temporaire qui est déjà sur place. Est-ce qu'on peut espérer que la MONUSCO va contenir la situation et stabiliser la région?
Oui, évidemment, je commencerai par la deuxième partie de votre question. Je l'ai indiqué tantôt, nous avons déployé une base opérationnelle dans la région de Toto pour prendre la menace sécuritaire que constituent aussi bien les Maïmaï Tcheka que ceux de Guidon qui s'affrontent depuis un certain temps dans cette région-là. Et je l'ai aussi dit tantôt que suite à ce déploiement de force, les populations étaient beaucoup plus rassurées et nous avons observé un retour progressif des populations vers leurs différentes localités. Maintenant, le retrait de casques bleus de Kachébéré, je ne suis pas très au courant, peut-être que le major pourra compléter là-dessus.
J'avoue moi-même que je n'ai pas été informé sur cette situation. Toutefois, nous allons rechercher les informations pour vous le confirmer à la prochaine fois.
Merci, direction Kinshasa, pour deux questions.
Ok, revenez plus bas, après on va aller ici.
Merci, moi c'est Flavien Moussas pour la zone des planètes de l'émission. Mais c'est le porte-parole, vous nous avez Rachel, la deuxième question ici à Kinshasa, mais il n'y a pas de problème. Ma préoccupation, c'est sur le plan des droits de l'homme. J'aimerais bien sur la disparition de M. Bienvenu. Vous avez dit que le bureau des droits de l'homme congène des Nations Unies. Oui, il se préoccupe de la situation. Moi, j'aimerais savoir, il s'occupe de la situation comment? Est-ce que vous avez de filières sur le terrain pour comprendre de comment est-ce que les dossiers évoluent? Merci.
C'est le point.
Il n'était pas prévu que j'intervienne. Hein. Le porte-parole avait très bien répondu à la première question qui avait été posée. Je pense que c'est une question qui revient. Nous nous rappelons tous qu'il y a eu un fait similaire qui était survenu à Goma, où effectivement c'est le même mode opératoire qui avait été utilisé. Un membre de la Lucha qui est convoqué à un rendez-vous et qui disparaît par la suite. Donc les services qui ont le pouvoir d'arrestation et de détention dans ces pays disent ne pas savoir réellement où serait passé cet individu. C'est le même cas qui se passe actuellement pour Bienvenu, ce qui est réellement regrettable. Et nous le regrettons, nous le déplorons, parce que dans un état de droit, comme l'a dit le porte-parole de la mission, il appartient, la protection des citoyens incombe en premier lieu aux services de sécurité du pays. Qu'un individu puisse disparaître pendant 3-4 jours et que personne ne puisse dire où serait passé cet individu est extrêmement grave. Donc, il leur appartient de dire réellement qu'est-ce qu'il est advenu de Bienvenu. Nous sommes habitués à ce type de situation et je ne doute pas que d'ici quelques jours, on saura réellement qu'est-ce qu'il est advenu de cet élément de la Lucha. Alors, pour ce qui concerne le bureau conjoint des Nations Unies, notre travail, vous le savez, le travail de monitoring des droits de l'homme, nous le faisons sur l'étendue du territoire. Il nous appartient effectivement, en vertu de notre mandat, de faire le suivi, de noter les manquements par rapport aux droits qui doivent être respectés et pour lesquels l'État a pris des engagements, de faire remonter les manquements que nous observons aux autorités, d'en discuter avec eux en vue de les amener à prendre des mesures de correction qui s'imposent. Nous le faisons dans un bel esprit de dialogue et de partage, je dois le souligner. Mais évidemment, tout n'est pas rose et il faut continuer à pousser dans cette direction-là. Merci.
Oui, vous aurez bien noté, celui qui vient d'intervenir, c'est M. Aziz Choi du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à RDC. Est-ce que nous gardons la parole pour une autre question?
Oui, vous avez la parole.
Très bien. On va encore changer de côté. On va aller de ce côté. Voilà, donner la parole.
Merci beaucoup. Je suis Alain Botoko. Je suis reporter photographe indépendant. Ma question s'adresse au major parce que lui, il a parlé que la situation au pays est calme. Or, lui-même a dit bien qu'il y a des tensions entre le pygmée et le Luba au Katanga. Ma grande préoccupation est de savoir, ces deux peuples vivaient en harmonie tout le temps. Qu'est-ce qui est arrivé que ces deux peuples vivent en couteau tiré et il y a des dizaines de personnes qui sont mortes à cause de cette tension? Qui perdit et quelles sont les solutions que la MONUSCO propose, mais aussi parce qu'elle est en connexion avec le gouvernement? Qu'est dit le gouvernement pour cette situation qui a trop perduré, beaucoup du sang a coulé? Merci beaucoup.
Major, à vous la question.
Merci, monsieur le journaliste. Je dois me rappeler d'une intervention du Charles Bureau ici. C'est des tireurs de ficelles qui jouent contre vous, en vérité, dans ce grand Congo.
Ah, oui, donc je vais compléter à la suite du major. Vous avez parfaitement raison de poser cette question. Je voudrais toutefois préciser que le conflit entre les Louba et les Baloubakad et les Bédouins n'est pas un conflit récent, il est même séculaire. Vous avez posé la question de savoir c'est dû à quoi. Évidemment, ce sont des problèmes liés à une coexistence qui est tumultueuse, basée sur le foncier, basée sur la revendication de certains droits. Et vous avez vu que ces deux entités ont toutes les deux constitué des groupes armés qui s'affrontent de manière récurrente. Que fait la MONUSCO depuis lors? Et il faut saluer d'abord l'initiative qui a été prise par les autorités locales dans le Manono, particulièrement dans la région de Nyunzu, mais aussi il faut saluer les efforts consentis par la MONUSCO pour mener des actions envers ces deux communautés afin de les ramener autour de la table de négociation, mais aussi les autorités gouvernementales. Je me rappelle encore des visites qui ont été effectuées par l'ancien ministre de la Défense, de Richard Mouyej, en impliquant et les autorités locales, et les autorités provinciales, et les autorités gouvernementales, pour amener ces deux communautés à vivre en parfaite harmonie. Et nous pensons que ceci est en train de faire son bout de chemin. Que fait la MONUSCO face à cette situation? La force de la MONUSCO, vous vous rappelez bien, avait déployé à Nyunzu une base opérationnelle temporaire, qui a pris toute la mesure de la situation et qui avait réussi à ramener le calme entre ces deux entités. Les efforts se poursuivent et nous pensons que, avec l'intervention de tout un chacun, comme nous l'avons vu récemment, les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc nous revenons ici tout de suite à Goma pour prendre une question à la gauche. Oui, à
vous. S'il vous plaît, nous avons... Laurence voudrait compléter la question.
Est-ce ça? Oui, s'il vous plaît.
C'est juste.
Oui, Théophane.
Oui, Florence voulait apporter des compléments d'information.
Oui, concernant ce conflit, on peut dire qu'on assiste à un mouvement de retour des déplacés dans leur village d'origine et que à la mi-juillet, une mission inter-cluster a été réalisée dans ce fameux territoire de Nyunzu et on a pu constater que plus de 15 000 personnes étaient rentrées dans leur village d'origine, dans deux axes principaux, dans le sud de Nyunzu. Ces personnes constituent environ 80% du nombre de personnes qui y habitaient avant la crise. Alors, ce retour a été un retour spontané vers un milieu d'origine, mais il faut savoir qu'il se déroule dans des conditions extrêmement difficiles, dans un contexte d'extrême vulnérabilité, parce que la quasi-totalité des villages et des maisons ont été brûlés, les moyens de subsistance, les champs ont été pillés, brûlés et détruits. Et évidemment, la communauté humanitaire présente en République démocratique du Congo suit de près ce dossier pour apporter un soutien à ces populations. Mais on a assisté à un mouvement de retour.
Merci Florence pour cet éclairage. Nous restons ici à Goma pour une question. Oui.
L'éclairage de la VOA et Eric. Juste pour ajouter une question.
Vous pouvez le comme ça.
Selon Human Rights Watch, la MONUSCO n'a jamais eu plus d'une soixantaine de casques bleus à Nyunzu et la plupart, 40, ont été retirés depuis je ne sais pas combien de temps. Quelle évaluation la MONUSCO fait des risques de recrudescence des conflits à Nyunzu Est-ce que la mission envisage de renforcer sa présence là-bas? Ou pensez-vous qu'avec le retour des déplacés, que les risques sont minimisés?
D'abord, il faudra considérer que la MONUSCO a toujours pris la pleine mesure de ce conflit intercommunautaire dans la région de Nyozu, dans le Manono. Et à ce titre, d'ailleurs, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Martin Kobler, s'était personnellement rendu à Nyozu pour s'enquérir de la situation sociale qui se détériorait de jour en jour dans cette partie du pays. Maintenant, les allégations de Human Rights Watch relatives au déploiement insuffisant de troupes de la MONUSCO dans le Nyozu, je me porterai bien entendu en faux contre le terme des allégations. Parce que d'abord, vous avez raison de dire que le Katanga, d'abord, est une province très, très grande. Deuxièmement, nous n'avons pas un déploiement assez important de troupes parce que nous avons le bataillon béninois qui est présentement au Katanga et qui fait de l'excellent travail malgré les effectifs réduits que je viens tantôt de mentionner. Et à plusieurs reprises, la MONUSCO a déployé des troupes à Nyozu, des forces spéciales d'abord dans un premier temps, mais aussi des bases opérationnelles temporaires pour permettre de ramener la paix, et ça a été fait. Et donc nous pensons tout simplement que ce conflit a des incidences d'abord sociales, mais que ce conflit interpelle au premier chef les autorités locales, et je viens de dire tantôt que nous avons salué tous les efforts qui ont été faits par les autorités locales, mais aussi par la MONUSCO pour ramener la paix dans cette mission. De nombreuses missions d'évaluation ont été envoyées dans cette région-là, mais aussi des activités ont été menées pour ramener ces deux communautés autour de la table de négociation et de pouvoir enfin vivre une coexistence pacifique. Mais vous savez, ça prendra du temps. Je l'ai dit tantôt, ce n'est pas un problème récent, c'est un problème qui est séculaire. Donc les efforts sont en train d'être menés au jour le jour et nous pensons que ces communautés retrouveront bientôt la paix pour le développement de cette région-là. Donc une question à Goma avant d'aller à Kinshasa. Il nous reste 2 minutes, soyez très précis et très bref.
Oui, merci beaucoup Félix Bass. C'est Patrick Félix Abeli. Je vais poser la question concernant la matière des droits de l'homme. Avec ce qui se passe en République démocratique du Congo, des kidnappings pour se faire d'argent par un groupe d'hommes, des enlèvements pour faire taire ce qui veut de l'avancement de la démocratie. Concrètement, le bureau conjoint des Nations Unies qui documente ça en République démocratique du Congo, selon vous, est-ce qu'il y a avancement ou régression de la situation des droits de l'homme en RDC?
Donc, direction Kinshasa, nous allons retrouver Aziz Choi qui nous donnera des informations beaucoup plus précises sur cette question. Oui, Aziz.
Oui, en termes de progrès, pour ce qui est des droits de l'homme, je pense que la tendance, elle est indéniable, la tendance, elle est bonne. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que si vous jetez un regard en arrière, aujourd'hui par rapport aux 2 dernières années, on a fait beaucoup de progrès ont été faits. Ça, il faut le reconnaître et le saluer. Mais il y a effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tout n'est pas au bout fixe. Il y a des éléments, des domaines dans lesquels il y a encore des progrès à faire. Il faut apporter des améliorations. Et ces domaines-là, nous le savons tous, c'est évidemment ces types de privations de liberté, des personnes qui sont arrêtées en dehors des règles et procédures établies et qui sont détenues au secret. Ça, je pense que ça a été condamné et je ne suis pas sûr qu'au niveau, parmi toutes les autorités nationales ici, beaucoup cautionnent ce type de pratique. Je sais qu'au moins avoir lu une réaction du ministère de la Justice qui demandait de façon très claire que les personnes qui sont arrêtées suivant la méthode que j'ai décrite soient remises à la justice et puissent comparaître de façon régulière. Je pense que c'est un peu le domaine dans lequel il y a qu'il faut déplorer, et dans le contexte préélectoral, c'est très très inquiétant que de telles pratiques puissent subsister. Voilà. Merci.
Aziz, nous restons à Kinshasa pour une dernière question.
Oui, je crois que vous.
Oui, Kinshasa, une dernière question, s'il vous plaît.
Pour avoir la parole.
Oui, Albert Omba, Numérica TV.
Monsieur le porte-parole, nous revenons à la situation de Walikale où la MONUSCO a une base en Toto et là où il y a des affrontements entre les rebelles de Raia Mutomboki et d'autres. Est-ce que, malgré qu'il n'y a pas de collaboration entre les FARDC et la MONUSCO, alors que la MONUSCO dispose de bases en Toto, est-ce que vous pouvez faciliter le déploiement des forces armées à ce niveau-là pour régulariser les combats?
Oui, je vais être très rapidement pour vous dire que en dehors de l'opération Soukola 2, à laquelle la MONUSCO ne prend pas part, la MONUSCO collabore de manière étroite et de manière fructueuse avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Certes, vous avez dit qu'il y a une situation d'insécurité dans le territoire de Walikale. Oui, la MONUSCO a pris la mesure de la menace et a déployé une force, une base opérationnelle pour prendre en compte cette menace. Les FARDC sont en train de s'activer pour déployer des forces additionnelles afin de neutraliser ces deux groupes Maïmaï, Tchelka et Guédéon. Donc voilà un peu ce que nous pouvons vous dire sur la situation dans le territoire de Walikale. Nous arrivons maintenant au terme de cette conférence de presse. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette journée. Merci et à mercredi prochain. Merci.